Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 118e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 15 mai, il est exactement 19h05 heure de Paris, 13h05 heure de Newport aux États-Unis et 14h05 si je ne me trompe pas à Halifax au Canada, où se trouvent quelques-uns de nos invités, puisque nous allons parler ce soir de The Ocean Race et de refaire le match de la quatrième étape qui s'est achevée en milieu de semaine dernière. Pour revenir sur les moments forts de ce tronçon entre Itajaï et Newport, trois marins qui étaient en mer et ont connu des fortunes diverses sur cette étape. Le premier s'est imposé avec l'équipe américaine de Eleven Sour Racing Team. Il s'agit de l'Irlandais Damian Foxhall qui est justement à Newport. Salut Damian.
Salut tout le monde. Voilà, effectivement, grand beau soleil ici et puis les trois, bientôt quatre bateaux qui se préparent pour le prochain.
Notre deuxième invité était à bord du bateau qui a pris la deuxième place, Malizia. Il est depuis rentré chez lui en France à la Forêt Fouenant. C'est bien sûr Nico Lundven qui était le navigateur du bateau qui était skippé sur cette étape par Will Harris. Salut Nico.
Salut tout le monde.
Notre troisième invité a eu un peu moins de réussite sur cette étape puisque le bateau Guyot Environnement Team Europe a dématé à l'approche des États-Unis mardi dernier. C'est Sébastien Simon qui remplace au pied levé Benjamin Dutreux malade. Salut Sébastien. Sébastien qui est à Halifax où le bateau est arrivé, je crois, il y a quelques jours. Salut Sébastien.
Salut à tous, c'est bien ça, effectivement.
Bon, ben messieurs, avant de vous donner la parole, un bref récapitulatif de cette quatrième étape de 5 500 milles qui aura été assez animée, avec notamment un duel en tête qui aura duré jusqu'au bout entre Eleven Sour Racing Team et Team Malizia, remporté par le premier avec une demi-heure d'avance sur le second, tandis que Biotherm, skippé par Paul Meillat, a complété le podium. Une étape qui a connu deux dématages, celui en début d'étape de Holcim PRB et celui, comme on le disait à l'instant, mardi dernier, de Guyot Environnement Team Europe. Autant d'événements qui ont rebattu les cartes au classement général, puisque après quatre étapes, Holcim PRB, qui était solidement installé en tête après les trois premières, ne compte plus qu'un point d'avance sur Eleven Sour Racing Team et Team Malizia, qui sont à égalité de points, et 6 sur Biotherm, tandis que Guyot Environnement Team Europe, qui avait malheureusement dû déjà abandonner sur l'étape précédente, est un peu décroché. Le départ de la cinquième étape entre Newport et Aarhus au Danemark sera donné dimanche prochain, 21 mai, et elle s'annonce décisive, puisque, comme sur la troisième, les points compteront double. Eh bien, on va commencer par le vainqueur. Damian, déjà, on va faire un retour en arrière. On va repartir, il y a maintenant plus de deux semaines, au départ de cette quatrième étape. Dans quel état d'esprit était un peu l'équipe américaine de Eleven Sour Racing Team au départ de cette étape, sachant que vous sortiez d'une troisième étape dont vous aviez pris la troisième place, mais qui avait été un peu compliquée avec pas mal de soucis techniques et notamment en fin d'étape, une déchirure de grand voile. Raconte-nous un peu dans quel état d'esprit vous étiez au moment de prendre le départ de cette quatrième étape.
Mais je dirais qu'on était un petit peu je sais pas si je veux dire crispy là, mais on savait que c'était vraiment un moment clé dans la course, qu'il faut arrêter de niaiser et puis commencer à mettre des résultats sur le podium. C'est vrai qu'avec 5 bateaux, on peut oublier le fait que rapidement, tu vois, normalement sur une régate, tu fais premier, deuxième, troisième et tu fais ça de façon régulière. On arrive d'avoir une bonne chance de gagner. Mais quand il n'y a que 5 bateaux, troisième, c'est même pas au milieu de la flotte, tu vois. Donc, je pense qu'on a réalisé qu'à Brésil, que on a commencé à décrocher par rapport au team et que Bilicia était un concurrent féroce aussi, autant que Biotherm aussi. Et donc, c'était vraiment le moment de faire quelque chose, enfin de réussir à réaliser les capacités, les performances, le potentiel du bateau, sachant que cette étape, la quatrième étape, c'était une étape qui était parfaite pour le bateau, qui était vraiment ciblé pour le reaching et c'était une étape pour nous. Mais c'est vrai que Allseam aussi, c'était le même genre de bateau et on a attendu vraiment une compétition très féroce. Et puis, ce qui était étonnant, et puis bravo Militia, ils ont participé à cette combat pendant les deux semaines en mer. Malheureusement, pour Allseam, ils ont resté sur l'eau, mais la compétition a continué avec Militia. Et puis, on a tenu. Mais à partir de Brésil, c'était vraiment le moment c'était important pour nous de réussir, même sans parler que Newport c'était le home port, mais pour le Ocean Race elle-même et le potentiel, la possibilité de pouvoir espérer de gagner les Ocean Race, c'était là ou jamais, quoi.
Ouais. C'était le moment de scorer. Nico, vous sortiez d'une victoire d'étape sur la très grande étape du sud entre le Cap et Itajaí. C'était plutôt vous partiez plutôt en confiance, même si, comme le disait Damian, c'était peut-être pas a priori sur le papier l'étape la plus favorable à votre bateau.
Alors, effectivement, nous à Itajaí, on venait de gagner l'étape du Grand Sud, donc on était dans un état d'esprit. Toute l'équipe était dans un état d'esprit extrêmement positif. Mais ceci dit, c'est une équipe globalement Malidia qui a toujours un état d'esprit positif. Et alors, comme tu le dis, on peut s'imaginer sur le papier qu'en partant sur l'étape entre Itajaí et Newport, on n'a peut-être pas le meilleur bateau. Je dois dire que ce bateau m'étonne de plus en plus dans le bon sens du terme. Parce que comme on l'a vu, même sur une étape où en théorie on est censé être un petit peu en retrait au niveau des performances, on a réussi à se battre avec Eleven's Hour pendant plus de 15 jours pour arriver seulement 30 minutes derrière, et je pense que le résultat de l'étape aurait pu basculer dans l'autre sens à notre avantage, je pense à peu de choses, hein, donc on est globalement quand même très satisfait de cette étape. Parce que deuxième reste un résultat très bon, et puis satisfait des performances du bateau. Je pense qu'il y a encore de quoi optimiser ce bateau, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt réconfortant de voir qu'on a réussi un peu à inquiéter Eleven's Hour jusqu'au bout.
Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des performances du bateau justement et du duel que vous avez livré à Eleven's Hour Racing. Sébastien, vous sortiez d'une étape, comme je disais, vous aviez dû abandonner en début de troisième étape. Vous avez une sorte de course contre la montre pour être prêt au départ de cette quatrième étape à Itajaí. Raconte-nous un peu comment vous avez vécu cette course contre la montre pour rallier déjà Itajaí, pour retaper le bateau. Raconte-nous un peu comment on vit ça de l'intérieur.
C'est là où il faut un sacré esprit d'équipe, hein, et puis vraiment l'envie de pouvoir poursuivre cette compétition. Donc tout le monde était à pied d'œuvre à Cap Town pour trouver une solution et réparer le bateau, le renforcer aussi. Ça montre que c'est des bateaux qui sont ultra sollicités, malgré le fait qu'on a un bateau qui a quand même beaucoup d'heures de navigation devant lui. Finalement, on n'en finit jamais de vouloir renforcer les bateaux parce qu'ils sont de plus en plus sollicités, surtout là en équipage pendant The Ocean Race où où on est quasiment tout le temps à 100% du potentiel du bateau, hein, donc ça tape fort, les bateaux sont du coup très lourds en équipage, il y a beaucoup de matériel dedans. Donc on a commencé par réparer le bateau, le renforcer, on a fait appel à d'autres personnes, en tout cas ça a été une expérience humaine finalement, malgré la déception, quand même très enrichissante. Voilà, tout le monde était à pied d'œuvre pour continuer l'aventure, même si on attendait forcément tous de pouvoir participer à cette grande étape du Sud, qui avait plutôt bien commencé pour nous, hein, d'ailleurs. Ensuite, on a ramené le bateau à Itajaï. J'ai fait partie du convoyage, j'étais le skipper du bateau pour ce convoyage entre Cape Town et Itajaï. Le but, évidemment, était de ramener le bateau en un seul morceau et de pouvoir permettre à l'équipe aussi de se poser un petit peu à Itajaï pour se reposer, pour pouvoir peaufiner les derniers détails. Voilà, on est une équipe quand même, faut savoir, qui est très jeune, qui est en phase de progression. On apprend tous les jours, hein, tous ensemble, et c'est aussi très enrichissant. Donc on est parti à Itajaï avec un état d'esprit complètement différent, où on s'est dit que, pour nous, peut-être que le classement général, on le mettait un peu entre parenthèses dans un premier temps, mais on avait la chance de pouvoir s'aligner sur les autres étapes de The Ocean Race. Et finalement, ça représentait une course dans la course. C'est-à-dire qu'on allait vivre chaque étape comme une nouvelle course et on allait essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'était vraiment l'objectif de cette quatrième étape, essayer de montrer finalement le potentiel du bateau, montrer aussi qu'on est capable de faire des bonnes choses, qu'on est capable d'être aux avant-postes, comme je pense on a réussi à le montrer par certaines occasions au début de The Ocean Race. Bon, voilà, malheureusement... le sort en aura voulu autrement, mais c'est un coup dur. Tout ça nous rappelle que ouais, c'est des projets où on y met beaucoup d'énergie et il y a aussi beaucoup d'émotions dedans. Forcément que la déception est grande et en même temps, on a vécu une expérience, je pense, là, tous ensemble, qui est assez hors du commun. Voilà, c'est des avaries qui peuvent arriver, mais en tout cas, c'est probablement... une expérience dont on se souviendra très très longtemps.
Bon, tu vas nous raconter un peu plus dans le détail ce qui vous est arrivé la semaine dernière. On va reprendre le début de cette étape, Damien. C'est comme souvent au large du Brésil, c'est des conditions toujours un petit peu difficiles, aléatoires. Raconte-nous un petit peu ce début d'étape.
Ben écoute, c'est aussi des conditions idéales, hein, parce qu'on est... On est proche des Alizés, puis après Cabo Frio, au large de Rio, on est dans les Alizés. Donc, c'est vraiment une étape. Enfin, c'était mon première étape avec ces bateaux-là. Donc, pour moi aussi, j'ai découvert un bateau parce que je n'ai pas beaucoup navigué avant. J'ai attendu un bateau qui est rude dans les moments rapides. Et avec beaucoup de travail à faire, rapidement découvrir les changements de vitesse et les outils qui pour faire avancer le bateau, mais c'est une étape pour la plupart qui est vraiment c'est une étape superbe. Enfin, c'est de reaching, il y a un petit peu de prêt à faire aussi, enfin un petit peu beaucoup, mais c'est super. C'est vrai qu'au large du Brésil, déjà il faut dégager du continent où le Brésil fait grande partie. On a contourné le Brésil pendant à peu près une semaine. Tu réalises que c'est un grand pays et que c'est un pays qu'il faut surtout essayer d'éviter pour la plupart quand on est en train de naviguer au large parce qu'il y a tout ce qui est interface météo. Donc, on essaie de tirer des bords au large avec quelques exceptions. Quand on est proche de la côte, il y a beaucoup d'activités artisanales en termes de pêche. Donc là, il y avait des pièges. Je pense qu'on a tous un peu des petites histoires à raconter là-dessus. Mais nous, en tout cas, on a passé très proche des filets, des bateaux de pêche. On a eu un petit contact avec une certaine poisson, on ne sait pas. On a tapé quelque chose sur la quille. Tout ça, ça faisait partie du dégagement du Brésil, de gérer la partie au large de Recife, qui est le courant des Alizés qui tire vers le nord-ouest. Et après, un passage de Doldrums qui n'était pas trop Pot-au-Noir, qui n'était pas trop difficile finalement. Le piège, je dirais, c'est vraiment essayer d'être trop large. Enfin, il faut tirer un bord pour être trop large. sachant que si t'es pas été allé assez dans l'Est, peut-être c'est difficile de retourner après. Donc en fait, Militia, ils ont vraiment bien fait par rapport à nous. Je trouve qu'ils ont trouvé souvent des passages plus à l'Est que nous, avec un prêt des fois un petit peu plus serré. Et on a eu, je pense, que des changements de tête, si je ne dis pas de conneries, à peu près 17 fois qu'on a changé de tête de la course. Donc c'était un départ de la course très passionnant, avec voilà, tout ce qui est compliqué un petit peu au large du Brésil.
Nico, tu confirmes ce début de course que raconte Damian?
Ouais, effectivement, tout à fait, je peux que confirmer ce que vient de dire Damian, et j'ai même envie de rajouter une chose supplémentaire, c'est un peu la faible, enfin, qui est une chose supplémentaire qui rajoute un peu de piment à tout ce que vient de raconter Damian, c'est la faible qualité des prévisions météo, sachant que c'est une zone où il n'y a pas de modèle à maille fine, de modèle météo à maille fine quand on est proche des côtes. Donc, c'est à nous de nous débrouiller avec les effets de site, les effets thermiques. Il y a aussi du courant le long du Brésil qui est pas très bien modélisé par les données météo. Donc, voilà, on a aussi un petit peu ce flou artistique au niveau de la météo, mais qui rajoute un petit peu de piment à tout ça. Donc, ça fait de la régate qui était sympa. Alors, malheureusement, Olsim nous a quitté un peu tôt. Nous a quitté un peu tôt là-dedans, mais sinon avec les trois autres bateaux, là, on s'est fait quand même une régate à quatre sympa jusqu'à la pointe nord-est du Brésil. Là, c'était vraiment chouette.
Et à bord de Guyo Environnement Team Europe, comment vous vivez ce début d'étape, Sébastien?
Ah, c'était un super début d'étape. Hein. On est resté au contact des leaders pendant un bon moment. À ce moment-là, rien n'était joué. C'est sûr que le Brésil est effectivement, comme dit Damien, un grand pays. On avait l'impression, finalement, sur la carte de jamais avancer, parce que je pense que sur le parcours, ça représentait bien 1000 milles, ce qui est immense, ou près, où les bateaux vont quand même... C'est pas l'allure la plus rapide du bateau. En tout cas, il y avait plein de petits coups à jouer, et surtout, pas mal de surprises au niveau des bateaux de pêche, des plateformes pétrolières, qui sont pas toujours matérialisées aussi sur les cartes. Où on se retrouve face à des buildings énormes sur la mer. C'est assez étonnant. Ça nous laisse un peu circonspects. Mais voilà, on a aussi croisé pas mal de bateaux de pêche qui n'étaient pas forcément équipés d'AIS, donc qui nous permet de les identifier clairement. À un moment, on est passé à côté d'une file indienne d'une centaine de bateaux de pêche qui nous a empêchés de faire un virement de bord le long de Cabo Frio, donc pas loin de Rio. Voilà, c'est des expériences qui sont assez incroyables. En tout cas, c'était une première partie de course vraiment intense. Pas forcément difficile physiquement, hein, mais vraiment intense d'un point de vue stratégique et puis au niveau de l'attention qu'il faut accorder au bateau et à tout ce qu'il y a autour.
On va continuer avec toi, Sébastien. Premier coup de théâtre au bout de 4, je crois que c'est 3-4 jours de course, on apprend le dématage de Holcim PRB. Comment vous, à bord du bateau, vous l'apprenez? Comment on apprend cette nouvelle en général? C'est l'orga qui vous appelle? Comment ça se passe?
Ouais, effectivement. Alors, je sais plus si Kevin ou l'organisation nous a envoyé un texto, WhatsApp sur un groupe qu'on a tous en commun. Bah, c'est toujours une mauvaise nouvelle, hein. On prend pas ça, nous, les concurrents de Gaieté de Cœur, c'est triste, personne mérite de démater. Et Kevin Holcim était dans une vraie belle position, en solide leader aussi à ce moment-là, il navigue très très bien, et voilà, un dématage, on se dit mince, quoi. C'est sûr que on aurait préféré finir la course à 5 bateaux.
Bien sûr.
Et puis après, Damien, surtout, on a croisé Kevin à l'AIS.
Ouais.
On a croisé Kevin, effectivement, qui nous a appelé par VHF. C'est moi qui étais en quart à ce moment-là. Et Kevin qui nous appelle, faites attention, parce que forcément, il avait plus de mât, donc on ne pouvait pas l'identifier très bien dans la nuit. Le bateau au ras de l'eau, c'est pas facile à voir. Et du coup, on a pu échanger un petit peu ensemble. Il avait l'air déjà déterminé à retourner dans la course, à trouver des solutions. À ce moment-là, il savait pas trop s'il se détournait vers Rio ou Victoria, je crois. Mais voilà, c'est malheureusement un sport mécanique et ça fait partie du jeu, c'est comme ça.
Damien, quand on apprend le dématage de Ultime PRB, est-ce que sur les bateaux concurrents, ça jette un froid, on devient peut-être plus attentif à son propre mât, on lève le pied, ou dans quel état d'esprit on est sur le coup?
Ouais, mais enfin, pour revenir à ce que disait Sébastien, c'est que déjà il y a une sorte d'émotion viscérale parce que on a eu des expériences de dématage. D'ailleurs, j'étais avec Kevin sur Dongfeng quand on a dématé au large de Ushuaïa. Donc, enfin, il y a déjà une connexion viscérale. On sent physiquement malade. On a une émotion forte par rapport à nos collègues sur l'eau. Après, il y a aussi la notion de la compétition, la valeur de compétition, c'est les autres bateaux. Donc là, tout de suite, il y a la valeur de compétition est réduite. Et puis, c'est quand même nos amis, puis nos collègues qui sont sur l'eau. On pense à leur sécurité sur l'eau aussi. Mais comme dit Sébastien, c'est un sport mécanique. Ça fait partie de gestion de matériel, des choix de matériel. Et bien sûr, là-dedans, il y a une partie de chance et de malchance. Et puis, donc, du coup, effectivement, tiens, il faut peut-être, est-ce qu'on a l'été des G3, on va le remettre, ou toi, est-ce que tout va bien? Enfin, c'est un petit rappel, c'est un grand rappel, il faut faire attention, même si cette période-là, c'était un petit peu rough, parce qu'on tirait un bord rapide pour retrouver le large. On était à peu près à 60 ou 65 degrés du vent, en train de faire du plus de 21 nœuds au près, donc ça tapait pas mal. Mais bon, c'est terrible, hein. Ça fait partie de la course, mais c'est terrible.
Nico, on va poursuivre avec toi sur ce sujet. Quand on apprend ça aussi, est-ce qu'on cherche tout de suite à comprendre les raisons du dématage pour se demander si justement ça peut nous arriver? Comment vous cherchez à avoir des infos?
Ouais, effectivement, quand on apprend le dématage, comme on dit Seb et Damien, c'est une grosse déception et une grosse pensée pour l'équipe d'Holcim. Et puis, forcément, tout de suite après, on cherche à savoir ce qui s'est passé à bord pour se dire, faut pas qu'il nous arrive la même chose si on peut essayer de l'éviter. Donc, là-dessus, assez vite, l'équipe d'Holcim, ils ont été très transparents. Ils ont dit, ils ont tout de suite partagé leurs premières conclusions sur la cause du dématage. Nous, en l'occurrence, donc c'est les mérillons de l'été de J2 en haut qui a cassé chez eux. En l'occurrence, nous, on a la même pièce sur Malidia, donc tout de suite on s'est regardé, on s'est dit ah, qu'est-ce qu'on fait là-dessus. On est en course, donc on va pas non plus se mettre à lever le pied dès le moindre doute. Malheureusement, ça peut arriver, que des pièces cassent, même si les conditions étaient pas extrêmes. On tirait quand même un petit peu sur les bateaux, comme le disait Damien. On était au pré rapide, ça allait vite, un peu face à la mer, donc ça tapait beaucoup. Et malheureusement, ces choses-là, ça peut arriver.
Et est-ce que, passé le coup de l'émotion que décrivait bien Damien juste avant, on commence quand même à sortir un peu les calculettes et se dire, surtout vous qui étiez deuxième au classement général derrière Ultime PRB, à se dire qu'il y a quand même un gros coup à jouer au général?
On le fait pas tout de suite, mais effectivement, au fil de l'étape, on se dit qu'est-ce que ça va donner? Ils vont nous rejoindre à Newport, donc ils font dernier de l'étape. Ils marquent 0 point. Effectivement, on fait des calculs, mais faut pas non plus faire des calculs trop vite, parce que tant que l'étape est pas terminée, il peut aussi nous arriver des bricoles. Donc, faut pas non plus. Et puis le but, c'est pas non plus de se réjouir du malheur des autres. On aurait préféré faire l'étape, comme le disait Seb, avec les 5 bateaux sur la ligne d'arrivée, ça aurait quand même été plus sympa. Pour revenir à ce que tu dis, effectivement, si on passe la déception de ce dématage pour Holcim, c'est sûr que leur place d'abandon sur cette étape relance le match en tête de course avec les 3 premiers bateaux en 3 points, ou en 2 points même, je crois.
Oui, bien sûr. Ouais. À ce moment-là de la course, vous allez attaquer un peu la remontée vers le poteau noir et c'est là que va vraiment commencer votre duel avec Eleven Star Racing Team. Vous avez d'ailleurs passé en tête l'Équateur, mais pour, je crois, quelques centaines de mètres d'avance. Raconte-nous un peu l'intensité de ce duel que vous avez vécu avec eux. Il y a notamment une photo de drone incroyable qui a été prise par Amaury Ross, qui est jeune board reporter sur Eleven Star Racing Team, où on voit les deux bateaux bord à bord, comme si on était en baie de la Forêt Fouénant. Raconte-moi comment vous avez vécu un peu l'intensité de ce duel.
C'est vrai que ce duel, c'est super hein, d'avoir du match comme ça quand on est perdu au milieu de l'océan, parce que justement, ça permet de garder de l'intensité à bord. Donc, quand on est en quart, on est vraiment focus sur les réglages, sur tout ce qui peut se passer, le moindre nuage. Donc, évidemment, on les a à l'œil. Enfin, c'est plus, non seulement on les a à l'œil, yes, mais en plus, on les voit vraiment. Donc, on est capable de voir éventuellement les changements de voile, ces choses-là. Donc, ça permet de tenir vraiment un niveau de jeu très élevé parce qu'on se relâche pas. Et puis, du coup, ça a duré un long moment, cette histoire. Ce duel avec Eleven Sauer. Et par contre, ce qui est aussi génial, c'est que du coup, il n'y a pas ce sentiment de... où l'étape traîne en longueur parce que il se passe pas grand chose. Là, moi cette étape-là, je l'ai vraiment pas vu passer parce que grâce à Eleven Sauer, du coup, il nous a tenu en haleine toute l'étape et du coup, on s'est vraiment battu. Quand on était en quart, il n'est pas question de se dire que pendant 5 minutes, on va aller sur son téléphone faire une petite lire un article ou un truc comme ça quoi. On reste toujours sur les écoutes, essayer de régler le bateau du mieux qu'on peut, donc c'est top hein, quand c'est comme ça.
Damien, tu de l'autre côté sur l'autre bateau, tu confirmes, tu as vécu ce duel avec la même intensité. Est-ce que c'est pas peut-être un peu usant mentalement sur la longueur justement d'avoir c'est bien parce que ça aide comme le disait à l'instant Nico à faire avancer le bateau à rien lâcher, mais est-ce que c'est pas parfois un peu usant mentalement?
Bien sûr, mais c'est quelque part c'est pour ça qu'on est là. C'est un long Figaro, quoi. À un moment donné, il y a Charlie qui me regarde. J'étais sur le pilote et je ne sais pas pourquoi j'ai mis le pilote en mode compas pour cette petite phase-là. J'étais plus deux, moins un. Puis il dit, tiens, t'as une patience de fou, toi. Et puis j'étais étonné par le passant commentaire. Je dis, je ne pense pas que c'est forcément de patience, c'est juste une... comment je dis ça? C'est un genre de méditation océanique. Enfin, on adore ça, juste d'être sur l'eau, de regarder les vagues, le vent arriver, venir, chaque risée. C'est un genre de méditation qu'on participe, c'est ce qu'on fait, quoi. Et donc, du coup, de rajouter un autre bateau dans la même zone d'eau, ça augmente l'expérience, ça augmente le genre de concentration qu'on peut avoir. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant parce que tu fais un bon coup, puis le quart après, il est à nouveau devant. Mais c'est ça la régate. Le fait, malheureusement, d'avoir manqué Holcim là-dedans, c'est vrai que ça aurait été encore plus riche. Et puis, même si Biotherm était un petit peu en retrait, on regardait de très proche parce qu'ils ont pris quelques options qui étaient quand même très intéressantes. Donc, c'est ça le je dirais que c'est ça le plaisir de naviguer en équipage, c'est qu'on a un niveau d'intensité qui fait que c'est une expérience très intense.
Ouais. Et des photos comme celle dont je parlais d'Amaury, là, votre onboard reporter, il y en a une autre aussi d'Antoine Auriol qui était sur Malidia. Il y en a eu beaucoup, vous êtes beaucoup vus sur cette étape. Tu disais il y a eu 17 changements de leader entre vous, je crois, sur la totalité. Mais est-ce que vous êtes souvent vus en de visu plutôt qu'à l'AIS?
Oui, tout à fait. Et puis, des fois, c'est juste l'horizon, mais je pense que Melissa, ils ont souvent trouvé une façon de trouver une route un petit peu plus à l'est pour nous, pour choper le vent un petit peu avant nous, dans les risées, enfin, dans les dans les nuages. Donc, chaque fois qu'on nous, on essaie d'accélérer et tirer route directe, entre guillemets, les militaires sont revenus pour reprendre la tête. C'est vrai qu'à deux, on va plus vite. Tant qu'on va dans le même, dans la bonne direction, ce qui est le cas dans une course où c'est du reaching avec un waypoint assez direct, dans ces cas-là, les deux bateaux vont aller plus vite qu'un bateau tout seul. Donc, je pense que c'était un petit peu un effet de mouton, mais dans le bon sens du terme, où les deux moutons prennent le route direct, quoi.
Nico, tu voulais ajouter un mot?
Ouais, ce que je voulais ajouter aussi à ce sujet-là, c'est que ce qui est super intéressant dans toute cette phase-là qui a duré de nombreux jours, voire même quasiment toute l'étape avec Eleven Sawyer, c'est qu'en fait, ça nous permet aussi d'apprendre à comment se servir de nos bateaux. Nos bateaux, c'est des protos, c'est des bateaux assez complexes avec pas mal de technologies entre les foils qu'on peut sortir à fond, qu'on peut rétracter un peu, on joue sur le rec, on a des ballasts, on a le matossage, on joue avec l'angle de quille, plus toutes les configurations de voile qu'on a, plus aussi les réglages de pilote. Aujourd'hui, les pilotes sont très intelligents, mais il faut quand même savoir bien les régler pour pouvoir en tirer vraiment le maximum. Du coup, ça nous tire vers le haut et ça permet d'avoir un apprentissage vraiment accéléré du bateau qu'on pourrait pas avoir en étant tout seul, quoi. C'est pas possible.
Sébastien, vous étiez un peu plus décroché sur cette étape parce que forcément vous avez un bateau. On rappelle que vous êtes le seul bateau de génération 2016 sur cette Ocean Race. Vous êtes un peu dans la position du chasseur. À quoi on se raccroche pour quand on est un peu en queue de flotte? Est-ce qu'on essaie de forcer peut-être un peu des options stratégiques? Quel était un peu votre target? C'était bien terme devant vous, raconte-nous comment vous avez vécu cette étape et notamment toute cette remontée vers le poteau noir puis vers Newport.
Oui, alors le fait que ce soit un bateau d'une autre génération, effectivement, c'est vrai, il y a deux générations d'écart entre notre bateau et celui des autres. Maintenant, clairement, et ça c'est enfin dans l'équipe, on essaie de pas se trouver d'excuses à ce niveau-là parce que finalement, même si de temps en temps on peut observer quelques différences, je pense que c'est pas ça qui fait le résultat ou quoi que ce soit. Donc on n'essaie pas de se trouver des excuses, bien au contraire. Je pense que si on s'est fait larguer à un moment, c'est parce qu'on a vécu une petite avarie qui peut arriver à tout le monde. En fait, on a cassé la downline de foil, ce qui faisait que quand on était au moment où nos bateaux allaient le plus vite à la fin de cette première semaine au reaching, là où on atteignait des vitesses moyennes au-delà des 21-22 nœuds, eh ben, en fait, on n'avait plus de foil à notre disposition. Et quand on a voulu essayer de changer la downline, en fait, une avarie en entraînant une autre, on n'avait plus la possibilité de pouvoir descendre le foil. Et ça nous a coûté. Et en plus de ça, les conditions météo, les leaders ont pu partir avec le vent, pendant que nous, on se faisait rattraper par des vents beaucoup plus légers par derrière. Donc, c'était un peu double peine pour nous à ce moment-là. On a pris quasiment 300 000. Ça fait partie du jeu, quoi. Hein. C'est dur pour nous à ce moment-là parce que on vient de vivre une petite avarie. Il a fallu bricoler. Il a fallu. Puis ces foils-là, il nous restait plus de 1 200 000, je crois, à faire encore au reaching. Il était hors de question de continuer de naviguer sans foil. Donc, il fallait absolument pouvoir réutiliser le foil bâbord pour nous permettre d'exploiter tout le potentiel du bateau. Et ça nous a coûté effectivement quasiment 300 000. Donc à ce moment-là, c'est pas facile parce que on perd le contact. On continue de faire avancer le bateau. Et d'ailleurs, je crois qu'on a le record de notre bateau qui est à 573 000 en 24 heures. Ce qui est pas mal. On avait déjà battu le record sur l'étape 2 de notre bateau. Hein, je parle, voilà. Et 573 000, c'est pas loin quand même finalement du record de Holcim sur l'étape 3, hein, qui était de 592 ou 13 000, je sais plus. Donc on peut quand même s'en satisfaire. À ce moment-là, on est toujours, tu vois, à 100% du potentiel du bateau, toujours à fond sur les réglages, toujours à se relayer, toujours concentré. On espère que, évidemment, on regarde à chaque instant, à chaque mise à jour de météo, on regarde s'il y a une opportunité pour nous de revenir, est-ce que les leaders vont se retrouver dans une petite zone de transition qui va nous permettre, nous, hop, là, de se faufiler et de retrouver le contact des autres bateaux. Et dans ces moments-là, il nous reste qu'à nous donner le meilleur de nous-mêmes et puis attendre qu'une opportunité se présente et être en mesure de la saisir à ce moment-là. Et d'ailleurs, on est quand même revenu à 22 000 de biotherme, donc de la troisième place. Et là, le match pour nous était un petit peu relancé. Donc, vraiment, ça a été une étape qui a été très palpitante jusqu'au bout.
Tu peux expliquer ce que c'est que la downline du foil ?
Alors, en fait, nos foils, donc ces espèces d'ailes d'avion qui nous permettent de faire quasiment voler le bateau, qui donnent beaucoup de puissance au bateau, en fait, sont actionnés par des cordages, des boots. Donc, il y en a un qui permet au foil de descendre et il y en a un qui permet au foil de remonter. Et du coup, le cordage qui permet au foil de descendre a cédé sous la charge, et sans doute pour des histoires aussi de friction. Et voilà, c'est des systèmes qui sont quand même relativement complexes, hein, même si l'actionner juste par un simple boot, ça semble archaïque. Ça passe quand même dans des pièces assez complexes, et donc il peut y avoir certains points d'usure. Et c'est ce bout-là finalement qui reprend quasiment tout le poids du bateau quand le bateau se met à voler. Donc c'est pas un simple cordage, et c'est celui-là qui a cédé et qui du coup nous permettait plus de d'utiliser le foil. Voilà.
D'accord. Damien, Sébastien, à l'instant, parlait de 573 000 en 24 heures, qui est du coup le record de Guyot Environnement Team Europe, et effectivement pas très loin du record absolu qui avait été établi sur l'étape précédente par Holcim PRB, je crois que c'est 596 000. Vous aussi, je pense que vous avez tutoyé ce record sur ce long bord de Reaching, tribord Amur, cap vers le nord. Raconte-nous comment, tu disais que c'était toi ta première étape sur ce bateau, raconte-nous comment sont les conditions à bord, comment tu as vécu cet inconfort à bord à ces vitesses-là, 25 nœuds de moyenne sur 24 heures.
Ouais, mais écoute, juste pour revenir sur le matériel et les bris, parce que c'est vrai que tout de suite qu'il y a un petit problème, c'est sanctionné, parce que c'est vrai que si on avance à 20 nœuds, hein, on peut aller même beaucoup plus vite que ça, mais à 20 nœuds, à 1000, c'est 3 minutes. Donc, très rapidement, le moindre de ceci crée des écarts, donc ce qu'il a expliqué Sébastien, donc même que ça soit juste des manœuvres, changement de voile, mais c'est surtout si c'est un bris où il faut réparer, changement d'allure, ça c'est sanctionné tout de suite. Et on voit bien comment expliquer sa version. Il faut quand même se raccrocher parce que ça peut venir autour de rôle aussi. Donc, c'est jamais fini. C'est ce qui est un peu ce qui est fabuleux dans notre sport de course au large, c'est que tant que t'as pas croisé la ligne d'arrivée, tout est encore à jouer. En termes pour moi, l'expérience de cette étape et de découvrir ces bateaux à foil dans ces conditions, c'était fabuleux. J'ai attendu d'avoir une expérience un petit peu comme en mode 70, un trimaran qui est très robuste, très rapide, où vraiment le matériel est plus fort que l'homme peut se porter. Et donc, c'est vrai que c'était des sensations très similaires à des multicoques. Donc, c'est pour ça que nous, on l'appelait le bateau le monomaran à la place de trimaran. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce genre de sensations, parce que le foil donne les sensations d'un autre coque. Ça fait voler le bateau, ça fait rajouter le couple de redressement. Surtout quand ils utilisent les deux foils. C'est cette sensation que j'ai trouvée. Par contre, ça reste monocoque. C'est des bateaux maintenant qui sont très puissants avec très large, des coques plus affinées. Donc, ça coupe l'eau même si ça va très vite. Mais bien sûr, en monomarine, en IMOCA, c'est des coques très larges. Puis quand tu tombes, c'est une route d'expérience. Mais sur le bord rapide, c'est là où, pour être rapide, il faut être stable. Dans cette bande alisée pendant des jours, on avançait très très vite. Et puis, pour faire ça, il faut être stable. Donc ça, c'était des bonnes conditions. Le partie de la route, c'était la traversée du la partie du pré des fois, et puis surtout la traversée de Gulfstream plus tard dans la course. Donc non, expérience fabuleuse, c'est des bateaux fabuleux, mais c'est vrai, je pense qu'il y a une grosse différence entre le mener ça en équipage et le mener ça toute seule, parce qu'en équipage, on est à fond là-dessus, puis on, toute seule, il faut essayer de moyenner, trouver les réglages qui gardent une performance élevée, même si ce n'est pas à 100%.
Nico, à propos d'inconfort ou de relatif confort, Yann Elias nous disait, qui a navigué aussi sur Malizia, sur The Ocean Race, nous disait que justement Malizia était un bateau un peu plus confortable avec tous les guillemets qu'il faut mettre sur cette course, parce que avec peut-être une hauteur sous barreau plus importante et aussi une étrave qui permet un meilleur passage dans les vagues. Est-ce que c'est ton impression? Tu as navigué sur d'autres IMOCA, tu as peut-être des éléments de comparaison. Est-ce que tu as l'impression que ce bateau est un peu plus vivable que peuvent l'être d'autres concurrents?
Alors, c'est vrai que quand on parle de confort, ouais, je pense qu'il y a deux volets à ça. Alors, effectivement, Malizia est un bateau qui est assez haut de franc-bord, en plus qui a un gros roof, ce qui nous permet en fait de pouvoir nous tenir debout sans aucun problème à l'intérieur du bateau, y compris dans la partie cockpit, qui est un cockpit fermé, mais aussi dans la partie zone de vie. Donc ça, c'est agréable. Hein. Je pense qu'être plié en deux comme ça pendant plusieurs semaines, c'est quand même pas super. Donc pour nous, ça, c'est vraiment un truc qui est plutôt sympa. L'autre point aussi, c'est que y a beaucoup de volume à l'intérieur, donc on se marche pas dessus. Donc c'est aussi ça, c'est aussi plutôt chouette. Et après, il y a le côté confort qui est plus lié au comportement du bateau. Alors effectivement, Malizia a un passage dans la mer qui semble être vraiment meilleur que les autres, notamment enfin au portant. Ça s'est vraiment bien ressenti sur l'étape dans les mers du Sud où on voyait les images des autres bateaux. Enfin moi du coup j'ai vu ça, j'ai découvert ça surtout à l'arrivée, mais on voyait que non seulement les équipiers étaient pliés en deux à l'intérieur des cockpits ou à l'intérieur des bateaux, mais en plus ils se faisaient vraiment malmener, alors que nous on avait un passage dans la mer au portant qui était beaucoup plus confortable. Par contre, je suis pas sûr que quand on soit face à la mer, le comportement de Malizia soit mieux. Le fait que ce soit un SCO, je pense que ça tape plus au près. Du coup, on n'a pas ce côté étrave un peu plus fine qui permet de, comme le disait un peu Damien, qui, même si c'est des monocoques, mais qui permet, une étrave fine permet quand même un peu de percer un peu plus les vagues qu'une étrave qui est très large comme la nôtre. Donc là-dessus, sur le prêt, je suis pas sûr qu'on soit vraiment plus confortable que les autres, quoi. Mais bon, globalement, Malizia reste un bateau assez confortable, déjà, parce que comme je le disais, au niveau ergonomie, on a de l'espace, on a du volume, on peut se tenir debout, et ça, c'est plutôt chouette.
Ouais. On va parler juste de la fin de votre duel avec Eleven Sour Racing juste après. La veille de votre arrivée, on apprend donc le dématage de Guyon Environnement Team Europe. On va pas trop remuer le couteau dans la plaie, Sébastien, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce dématage vu de l'intérieur, comment ça s'est passé, comment vous avez réagi, et maintenant, est-ce que avec du recul, vous avez compris ce qui s'était passé?
Oui, alors c'est vrai qu'on était à 600 000 de l'arrivée de Newport, donc ça nous paraissait être on était à 2 jours et quelques de l'arrivée, donc ça nous paraissait être le dernier gros morceau. En fait, on avait juste un front, donc une zone de vent très très fort à traverser avant de pouvoir accéder avant de pouvoir prendre enfin la direction de Newport, de la ville d'arrivée. Donc c'était une zone qu'on regardait déjà depuis quelques jours. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, on étudie beaucoup les fichiers météo, on se pose pas mal de questions. On savait que le vent allait être fort. On regardait un peu l'évolution de tout ça au fil des jours, essayer d'avoir quelque chose de plus en plus fiable. En tout cas, on essaie aussi de regarder des routes alternatives pour essayer d'éviter d'avoir à rencontrer des conditions qui peuvent être difficiles. Est-ce que en prenant une route alternative on perd beaucoup? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de finalement, en menant le bateau à 100% plutôt qu'à la moitié de son potentiel, est-ce que finalement l'un dans l'autre on peut pas récupérer le temps qu'on a perdu? Bon, il se trouve que ce front, cette zone de vent très forte barrait littéralement la route. Il fallait la traverser, on n'avait pas le choix. Donc on s'attendait à des vents au-delà des 40 nœuds en rafale. Hein, on a eu, je crois, 57 nœuds, je crois, ou 56 nœuds. Donc on a quand même beaucoup parlé à bord et discuté de la façon dont aborder ce moment désagréable qui allait durer 5 ou 6 heures. Dans une mer pas forcément très haute, mais avec les courants du Gulf Stream qui étaient quand même assez cassantes pour les bateaux. Enfin, ça tapait quand même, c'était assez rude. Donc, on a d'abord sécurisé le mât avec tous les étais disponibles, c'est-à-dire l'étai structurel du J2, l'étai de J3 et un chicken stay, donc un étai qui relie carrément la tête de mât au bout dehors. Donc pour essayer de sécuriser au maximum le mât dans la mer et dans les vents forts. Et ensuite, on s'était dit, on essaie de pousser à la limite le bateau jusqu'à ce qu'on trouve une limite raisonnable, disons. C'est difficile à appréhender, hein, parce qu'à ce moment-là, on ne se fie que à nos sensations et aux alarmes qu'on peut avoir à bord. Donc, on a commencé par remonter un petit peu le foil pour que le bateau tape moins. Ensuite, on a diminué la surface de voile jusqu'à ce que, à un moment, on puisse plus diminuer la grand voile. On a diminué les voiles d'avant. Et puis, à un moment, le vent commençait à devenir vraiment, vraiment trop fort. Il y avait 50 nœuds en rafale. Et du coup, on a décidé de rouler la voile d'avant, le J3, on appelle ça. Donc, une voile qui fait à peu près 50 mètres carrés, que finalement, c'est rien, hein, sur nos bateaux. Et là, c'est une manœuvre, finalement, malgré le fait que ce soit une petite voile, qui est pas si simple que ça d'aller rouler une voile comme ça, parce que dans des vents forts, en fait, les bateaux sont tellement puissants qu'on change pas de trajectoire d'une seconde à l'autre. Donc, on a attendu la bonne opportunité pour pouvoir abattre et rouler ce J3. On a réussi, avec quand même pas mal d'efforts, hein. Tout le monde était réveillé sur le pont à ce moment-là. Et là, on s'est dit, maintenant, on fait le dos rond et on traverse ce front pendant 2 ou 3 heures, juste sous grand voile seul, vent de travers, donc grand voile 3 ris. Et là, on sait que le bateau est en sécurité, il ne peut rien nous arriver. Et malheureusement, c'est moi qui étais en quart à ce moment-là, avec Annie Lush. Benjamin et Robert étaient en train de dormir. Et sans aucune raison apparente, on avançait à 13 nœuds, 45 nœuds de vent moyen, une mer certes pas agréable, mais le bateau qui tapait pas plus que d'habitude, on a entendu un énorme crack. Et là, moi j'ai tout de suite compris que le bateau est dématé. Donc là, c'est un sentiment qui est, sur le coup, qui est rude, parce que pourquoi ? Enfin. C'était pas du tout imaginable dans notre esprit de démater dans cette configuration-là. Enfin, il n'y avait rien qui pouvait nous laisser penser qu'on prenait des risques inconsidérés ou autres. Au contraire, on a plutôt fait le dos rond au vu des conditions qu'on rencontrait. Et malheureusement, on a vu le mât tomber dans l'eau. Donc là, évidemment, je crois que ça a été filmé. J'ai pas eu le courage de regarder les vidéos, mais Benjamin, on l'entend crier non, 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 non. Évidemment, enfin, c'est son bateau. On s'investit tous là-dedans et la déception est plus qu'immense. Par contre, là, il faut tout de suite agir parce que les conditions sont quand même assez critiques à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, on a un bateau qui est effectivement d'une génération précédente où en fait on a des cockpits qui sont certes fermés par le roof mais très ouverts à l'arrière et à ce moment-là en fait on a beaucoup d'eau parce qu'on n'avançait plus mais les vagues qui arrivaient par l'arrière du bateau continuaient d'avancer elles et en fait le cockpit s'est rempli à une vitesse incroyable. Tout s'est mis à flotter à bord du bateau et là tout de suite sans même se parler l'équipage a été quand même d'une efficacité redoutable et a fermé les portes du bateau pour ne pas que l'eau rentre carrément dans la zone de vie du bateau. Et là, après, il a fallu se mettre en ordre de marche pour dégager le mât du bateau parce que le mât heurtait la coque du bateau. Donc, il faut pouvoir s'en extraire et le faire de la façon la plus intelligente possible. Donc, ne pas faire n'importe quoi, ne pas se mettre en danger parce que C'est ma première expérience de dématage et c'est impressionnant à quel point le bateau est instable et se fait chahuter par la mer à partir du moment où il n'y a plus de mât et plus de voile. Et on a finalement, pas moins sans effort, réussi à s'extraire du mât et à finalement à se mettre en sécurité. Personne n'a été blessé, on a tous travaillé collectivement pour réussir cette manœuvre très délicate. Voilà, et après, bon, je sais pas s'il faut que je raconte le reste de l'histoire, mais ça a été une expérience assez folle quand même.
Ouais, parce que vous étiez pas encore au bout de vos peines, il fallait retourner à terre. Il y a Damien qui veut réagir. Vas-y, Damien.
Oui, Sébastien, je sais pas si est-ce que vous savez la raison de dématage en termes de pièces de matériel, quelque chose que vous pouvez partager ou vous savez pas encore?
On partagera avec de toute façon plaisir tous les logs ou screenshots de logs qu'on a pu obtenir. Moi, j'ai passé pas mal de temps, puisqu'on a eu quand même 5 jours dans le bateau à se tourner un peu les pouces et à ruminer la situation. Donc, j'ai étudié les logs, des logs à 20 Hertz. Hein, donc, ça représente quand même 20 données par seconde, pardon. Sur les charges qu'on pouvait avoir sur le gréement, sur les impacts que la coque a pu avoir sur l'eau. Et en fait, il y a aucun câble qui n'a lâché. Voilà. Enfin, il y avait toujours de la tension de bastac. Il y avait toujours les tensions d'étai. On n'a jamais eu le gréement qui s'est molli sous le vent ou au vent. Et quand on a dématé, on a bien fait attention que tous les câbles soient encore attachés au mât, et donc on a bien fait attention de couper tous les câbles, donc c'est-à-dire les 4 haubans, les 3 étais et les 2 bastacs qui étaient reliés entre la coque et le mât. Donc il n'y a vraiment aucune pièce ou câble qui a cédé. C'est ça qui nous paraît le plus étonnant dans ce dématage, c'est que à la fois on démate dans une configuration qui est safe, où le dématage normalement n'est pas possible. Et en plus de ça, on ne trouve pas aujourd'hui la raison de ce dématage. En tout cas, on est sûr aujourd'hui qu'elle ne vient pas d'une casse d'une pièce ou d'une mauvaise manipulation de notre part sur le gréement.
D'accord, donc c'est pas un dématage similaire à celui de Holcim PRB, c'est pas le défaut d'une pièce.
Non, après on peut être sûr de rien parce que voilà, c'est des conditions, on voit pas exactement ce qui se passe, mais à 95%, non, c'est pas la casse d'une pièce.
On va revenir sur la suite de l'histoire pour vous. On va juste revenir un petit mot sur la fin d'étape. Vous avez été au coude à coude jusqu'à cette fin d'étape à Newport, Nicolas et Damien. Nicolas, selon toi, ça s'est joué où la victoire d'Eleventh Hour Racing? Il termine, avec, comme je le disais en introduction, avec seulement une demi-heure d'avance après un peu plus de 17 jours de mer. Ça s'est joué où? C'est des petits décalages et il y a peut-être ce fameux passage de front que vous avez dû vous aussi traverser. Raconte-moi un peu cette fin d'étape.
Ouais, on était vraiment bord à bord avec Eleventh Hour toute cette remontée de l'Atlantique, et je pense à peu près 4-5 jours avant l'arrivée. On a une nuit un peu compliquée avec beaucoup d'orages, des éclairs dans tous les sens. Ça leur fait des images incroyables. Je sais qu'on a une petite vidéo que Antoine Auriol a fait, nous, à bord du bateau, où on voit vraiment les éclairs qui tombent tout autour du bateau. Et dans cette nuit-là, on a manqué un petit peu de réussite à un moment donné. On est resté scotché sous un nuage alors que Eleventh Hour a réussi à s'en extirper beaucoup mieux que nous et est parti devant. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils ont toujours eu une petite avance de entre 20 et 40 000. Donc, à la faveur de temps en temps, nous, de conditions un petit peu plus propices, on arrivait à revenir à un petit peu, mais on n'arrivait jamais à revenir vraiment à leur contact. Donc voilà, je pense que ça s'est pas mal joué là. Après, nous, effectivement, on a eu également ce coup de vent à traverser avec des conditions vraiment très très rudes. Alors pas pendant très longtemps, mais vraiment quand même très très rudes, très intenses. Mais là-dessus, la situation a pas évolué entre Eleventh Hour et nous. Et puis après, ils ont très bien navigué aussi. Hein, donc ils nous ont contrôlés, ils nous ont pas laissé la moindre opportunité. On a pourtant essayé, mais ils nous ont contrôlés comme il fallait faire. Donc voilà, je pense que ça s'est joué là 4-5 jours avant l'arrivée, là dans cette nuit un peu difficile avec des orages, des grains dans tous les sens. Et du coup, on n'a pas été très heureux nous là-dedans.
Damien, tu le disais hein, tout à l'heure, c'était arrivé à la maison, c'était d'autant plus important pour vous de gagner cette étape. Est-ce que le sentiment à l'arrivée, c'était, tu le disais, au moment où vous partiez d'Itajaï, il y avait quand même un peu de pression, il était temps de scorer, de gagner une étape. C'était quoi c'était surtout du soulagement, c'était quoi les sentiments de l'équipage à l'arrivée victorieuse à Newport?
Oui, mais je pense que ça fait partie de la recette of the Ocean Race, c'est-à-dire d'essayer de matcher une équipe avec une escale. Ça met en place une situation où on peut avoir cette fabuleuse expérience où l'équipe de l'étape gagne son étape. Et donc là, pour nous, c'était une validation, c'était un soulagement, c'est tout. Puis j'ai eu un petit peu cette expérience avec Groupama jusqu'à Lorient, avec Green Dragon into Galway, avec Groupama into Galway aussi. Donc je savais bien ce qu'ils vivaient, Charlie, Emo et le reste de l'équipe qui étaient vraiment des Américains de New Rhode Island quand on arrivait ici. Enfin, c'était pour nous tous, mais je pense que pour eux surtout, c'était un moment très fort, très important parce que notre sponsor est basé ici aussi. Donc voilà, ça fait partie du reset de The Ocean Race et puis quand ça arrive, c'est fabuleux. Mais c'est juste fabuleux parce qu'on a une compétition qui était à l'auteur. Donc, merci Nico et Valencia. Merci Kevin, on sent mal pour lui, mais il va revenir encore plus fort. Paul, il a un super bateau, super équipage. Le reste de l'Ocean Race, c'est un nouveau départ. Et puis, on retourne dans les eaux européennes. On va retrouver les 65 aussi, les Volvo 65. On a fait plus que le demi-tour du monde, mais il reste encore la moitié de la course à faire. Donc, on est sur une bonne vague. On va essayer de continuer, mais je pense que les compétiteurs vont avoir leur mot à dire aussi.
Est-ce qu'on peut dire quand même que, en tout cas, entre les trois bateaux de tête hein, qui se tiennent en un point seulement, les compteurs sont quasiment remis à zéro avant cette étape qui va compter double, une étape sans doute qui sera décisive comme toutes les étapes, mais là, le fait qu'elle attribue deux fois plus de points, c'est vraiment une étape importante.
Oui, tout à fait, c'est un nouveau départ, c'est comme si on partait de l'Alicante, hein, c'est un nouveau départ, mais chaque bateau a pu apprendre des choses lors des dernières quatre étapes, hein, donc c'est un nouveau départ, mais avec un rajout de bagages, d'expérience que chaque équipage a pu ramasser lors des derniers mois, tout ce qui est motivation, mais aussi fatigue, parce que dans notre monde, IMOCA, etc., on pense dans un contexte transat, donc c'est beaucoup d'efforts de mettre en place un projet pour faire un transat. Bon, il y a bien sûr le Vendée Globe, mais si on reste dans un contexte transat, et au Chauvet, c'est comme 6, 7, 8 transats bout à bout. Donc pour les équipiers qui ont fait toutes les étapes jusqu'à maintenant, il y a une fatigue qui commence à s'accumuler. Mais en revanche, on voit ce qui est vraiment fun, là, c'est on voit vraiment un tournement de l'équipage, des skippers qui viennent d'autres équipes, qui viennent épauler les équipes sur les Ocean Race. Ça donne une petite expérience aussi à ces skippers et ces équipiers de venir participer. Et je pense que c'est à la fois pour le reste de cette course, mais aussi pour l'avenir de la prochaine édition. Je pense que ça monte un petit peu la motivation, je pense.
Bon, et toi, tu seras pas à bord sur cette étape?
Non, on a une autre stratégie pour cette prochaine étape. Il va y avoir un skipper Mocha très connu qui va venir épauler Charlie et Sci-Fi sur cette étape très importante parce qu'il faut faire face à Melitia qui est très vite au portant et bien sûr à Olsim. Donc, on est dans une stratégie de tourne, de changement d'équipage pour optimiser selon les étapes et je pense qu'on n'est pas le seul à faire ça, donc ça va être très intéressant à voir le line-up dans quelques jours et puis voilà, course à venir.
Effectivement, Nico, toi tu seras pas à bord de Malizia, hein. tu cèdes la place sur cette étape. On a vu que Charles Caudrelier notamment ferait lui partie de l'équipage de Sim PRB. On voit que tout le monde sort à bas ses cartes pour cette étape importante. Comment tu la vois cette étape? Est-ce que c'est, comme disait Damien à l'instant, c'est une étape de portant, donc qui peut être favorable à Malizia?
J'ai envie de te dire oui, mais encore une fois, je me méfie un petit peu parce que faut pas partir en ayant l'étape gagnée avant même de l'avoir faite. Hein, donc, tant mieux s'il y a du portant dans la brise. On sait que Malizia effectivement est un bateau qui est plutôt à l'aise dans ces conditions-là. Maintenant, la fin d'étape peut aussi être très compliqué, hein, parce qu'on va jusqu'à Aarhus, qui est sur la côte est du Danemark. Donc, toute la fin d'étape en mer du Nord peut être très complexe. Donc, je pense que c'est une étape qui peut vraiment avoir des rebondissements jusqu'au bout. Donc, faudra certainement pas crier victoire trop vite. Mais voilà. Donc, effectivement, moi, je suis pas à bord. Je suis en repos sur cette étape-là et puis je reviendrai pour la fin.
D'accord. Un petit mot pour finir avec toi, Nico. Après, on va donner la parole à Seb qui va nous raconter la fin du programme, la suite du programme pour Guyot Environnement Team Europe. Pour toi, c'est après The Ocean Race, tu as déjà un programme pour la suite de la saison. Il y a une Jacques Vabre. Quelle est la suite pour toi?
Écoute, oui, normalement, après l'Ocean Race, du coup, je vais enchaîner du coup sur un programme Transat Jacques Vabre. Bon, pour le moment, je tais le nom du projet parce que je laisserai communiquer en temps et en heure, mais ouais, normalement c'est ça qui est prévu.
D'accord. Bon, bah très bien. On le saura un peu plus tard. Sébastien, on va terminer par toi. Raconte-nous. On dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais raconte-nous très rapidement les quelques jours, l'aventure dont tu parlais, les quelques jours pour rejoindre Halifax pourquoi déjà ce choix d'aller à Halifax et aussi quelle est maintenant la suite du programme pour l'équipe.
Ouais, effectivement, bah du coup quand on a dématé, on était en contact avec l'organisation et l'équipe pour nous permettre de trouver une solution pour rallier un port. On savait pas encore lequel à ce moment-là, il y avait le choix effectivement d'aller vers Newport, de retourner vers les Bermudes ou alors de rejoindre Halifax. Finalement, le plus proche de nous, ça restait Halifax, un peu plus au nord, à 370 000. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça aussi? C'était pour nous permettre logistiquement après de ramener le bateau en Europe plus facilement et puis aussi au point de vue des, enfin concernant les conditions météo, c'était plus facile pour nous sous gréement de fortune de rejoindre Halifax avec les conditions qui nous attendaient. Voilà, en tout cas après on s'est vite rendu compte qu'il nous manquait du gasoil pour produire de l'énergie. Parce que l'hydrogénérateur sous gréement de fortune à vitesse très réduite ne produit pas suffisamment. Donc, pour produire de l'eau, pour recharger les batteries, alimenter les instruments du bord, le pilote automatique, l'AIS, la VHF et les moyens de communication avec la Terre, on avait besoin de gasoil et forcément, on avait prévu le gasoil juste pour rallier Newport, quoi. Donc, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu stressante, disons inconfortable, où on a commencé, avec l'aide de l'organisation et de notre équipe à terre, à essayer de réfléchir à des solutions, hein, qui pouvaient être soit du remorquage, soit du ravitaillement par des bateaux de pêche, etc. Et en fait, on a commencé par croiser un premier cargo auquel on a demandé un petit peu d'aide pour nous faire livrer en quelque sorte des bidons de gasoil. Malheureusement, il a tout bonnement refusé. Pas sympa. Donc ça nous a mis pas mal de stress à ce moment-là. Et ensuite, on en a croisé un deuxième, le Manta Sena, qui est passé juste derrière nous et qui finalement bah, le contact est bien passé, il a accepté de nous aider et on a fait une manœuvre assez incroyable où en fait il nous a largué 7 bidons de gasoil dans la mer avec un petit flashlight. On savait pas trop à quoi s'attendre à ce moment-là, il faisait nuit noire, la mer était encore un petit peu agitée. Il a accepté de ralentir, il voulait pas dévier sa route pour pas perdre trop de temps. Donc on savait qu'à ce moment-là, on n'avait qu'une seule opportunité, qu'un seul shot pour récupérer ces bidons de gasoil, et que si on les ratait, probablement que ben, on n'arriverait jamais à les récupérer, parce que c'est pas si évident que ça, hein, avec nos foils, de manœuvrer au milieu de l'Atlantique avec notre petit moteur, et puis la faible autonomie qu'on avait au niveau du carburant. Et il se trouve que avec beaucoup d'efforts et avec un travail bien collectif, on a réussi finalement à ramener ces bidons de gasoil à bord. Et là, bah, c'est un peu insoupçonné, hein, mais on a ressenti une émotion qui était celle de joie, de soulagement aussi, parce que voilà, ça nous permettait de souffler un petit peu, d'appuyer un petit peu notre gréement de fortune avec du moteur pour aller plus vite. Malgré ça, on a quand même mis 5 jours à rallier Halifax, ce qui est quand même pas rien. Sinon, je pense qu'on aurait mis au-delà des 10 jours. Et je pense que bon, il était temps de rentrer aussi parce que toute cette période où finalement on est hors course, où bah, il n'y a plus grand-chose à faire à bord si ce n'est qu'à veiller à l'extérieur les autres navires pour éviter toute collision, bah, on a beaucoup trop le temps de réfléchir, d'analyser la situation, etc. Donc c'est pas forcément très agréable. Et on est arrivé voilà, 15 heures avant l'arrivée. Il faisait 0 degré à peu près. Les nuits étaient assez rudes. Et on n'avait plus de gaz. Donc plus de quoi chauffer de l'eau, se faire un thé, se faire un café pour se réchauffer. Et aussi, du coup, plus de quoi hydrater nos plats déshydratés. Donc on attendait fermement l'arrivée à Halifax. Disons qu'on finit par prendre ça avec un peu de dérision parce qu'on sait que l'issue est proche. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été une expérience émotionnelle assez intense, et surtout quand on a vu aussi le visage de notre équipe à terre nous accueillir, qui étaient finalement des visages tout aussi frustrés, déçus que les nôtres, avec les larmes aux yeux et tout ça. Et c'est quand même certes un sport qui est parfois injuste, qui est parfois frustrant. Des fois on se demande pourquoi est-ce qu'on fait ça, et en fait voilà, malgré la déception, on se rend compte que c'est aussi des aventures humaines et des émotions qu'on ne peut vivre probablement que dans ce genre de circonstances. Et voilà, je suis encore un peu ému, mais ouais, c'est des moments vraiment intenses, des belles aventures, et
on le sent, ouais.
Ouais, et finalement ça donne envie de recommencer. Je sais pas, on est un peu fou, je pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est vraiment... l'issue est un peu incertaine pour nous parce qu'il y a aussi des aspects financiers qui sont importants. Mais notre objectif est quand même de revenir dans la course. Alors, pas sur la prochaine étape, malheureusement. Mais on espère revenir pour terminer The Ocean Race, terminer cette histoire tous ensemble. On espère revenir en Europe. Voilà.
Bon, bah, très bien. Damien, tu voulais, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, quelque chose?
Non, mais écoute, je pense qu'on a... On tous sent très fort pour Guillaume, pour Sébastien, pour toute l'équipe. Et, on vous félicite pour tout l'effort. C'est vrai qu'en fait, on essaie d'analyser un petit peu notre amour pour le cours au large avec Sci-Fi pendant l'étape. Et puis, on a fait une espèce d'hypothèse qui était le manque de soleil affectait le mémoire des marins, qui fait qu'on oublie les mauvais moments. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est une hypothèse sur laquelle j'accroche. Et c'est vrai que, un petit peu, ben, j'écoute Sébastien, c'est vrai que c'est ça, on accroche aux émotions, aux moments forts, et puis on oublie ça, on revient. Donc, on va être content de vous voir à nouveau sur la course là, très bientôt.
Eh ben, merci beaucoup, Damien. On vous souhaite à tous une bonne fin de The Ocean Race sur vos monomarans, on va appeler ça maintenant, c'est la nouvelle appellation. Déposé par Damien pour vos monocoques à foil qui volent. Nico, bon repos avant de retrouver l'équipe de Malitia pour les étapes européennes. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera le 119e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois, très bonne soirée et bon repos pour ceux qui le méritent. Et bon courage à Sébastien et à toute l'équipe et bon rétablissement.
Salut, à bientôt.
Salut, merci beaucoup.
Salut Nico, salut Sébastien, salut Damien.
Salut à tous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt !